Mettrais-tu ta tête dans la gueule d'un lion de cinéma?
Tu ne sais pas?
Est-ce que je tiens ma tête? Oui, un peu quand même.
Ouais. Donc tu la mettrais ou tu la mettrais pas ta tête?
Je suis pas sûr. Hein.
Ouais, tu m'étonnes. Eh bien, bonjour, bienvenue dans Underscore, l'émission qui vous dit tout sur la culture numérique. Aujourd'hui, je vous suis en compagnie de MMMan, Roudoudou, Flo, Medbel et Laurie. Bonjour l'équipe.
Bonjour.
Et cette fois, le sujet du jour, c'est Medbel qui nous le propose. On t'écoute. Quel est ce choix?
Alors, c'est justement un très très grand compositeur qui est parti dans tous les styles, aussi bien dans les films, dans les séries, etc. etc. Alors, malheureusement, il est mort en 2004. Alors, pour les 20 ans, j'ai voulu, et en même temps, une demande aussi, entre guillemets, d'une personne. Et donc, je fais sur Jerry Goldsmith.
Très bien. Eh bien, écoute, on a hâte de découvrir ça, mais avant, c'est un peu d'actu de... avec Flo, on t'écoute.
C'est connu de certains qui regardent la SF.
Ah oui, aussi. Oui.
La police désactive le logiciel Briefcam après l'enquête de Disclose. Un rapport du ministère de l'Intérieur, publié en catimini lundi 28 octobre, confirme les révélations de Disclose sur l'utilisation illégale par la police et la gendarmerie du logiciel Briefcam. Entre 2015 et 2023, cet outil permet la reconnaissance faciale. Pardon, il manque un mot. Cet outil qui permet la reconnaissance faciale a été désactivé juste après l'enquête.
C'est bizarre.
Et ouais, ça vaut le coup de lire. Hein. J'ai parcouru un peu le rapport et tout ça. C'est bien de lire l'article pour mieux comprendre ce qui se passe parce que c'est vraiment intéressant. Moi, j'ai vraiment pris plaisir à lire l'article.
Et Laurie, on t'écoute pour la suite.
Huawei officialise son divorce d'Android avec Harmony OS Next. Contrairement aux précédentes versions, l'OS du fabricant chinois ne supportera pas les applications Android.
L'Internet Archive encore menacé. Après avoir été obligé d'effacer... Ah, mettez les espaces 500 000 livres à cause des procès d'éditeurs, des majors du disque veulent lui faire supprimer de la musique et veulent récupérer 150 000 dollars par disque, soit plus de 600 millions au total.
Oh là.
Ah, les bandes de voleurs, hein.
Ça aurait été en Angleterre, 500 000 livres, ça fait pas mal.
Ah oui, c'est vrai.
Et des difficultés là à reprendre la partie archivage du web qui est juste en,
oui,
en,
plus,
en lecture.
Été,
quoi.
Ouais, ils ont été attaqués en DDoS et tout.
Oui, bon, alors que vraiment, c'est d'utilité publique d'avoir une préservation de l'Internet.
Ah oui, ça devrait être subventionné.
Eh bien, c'est tout pour l'actu. Ouais. Nous passons à une petite musique et après, on se retrouve pour le sujet du jour avec Medbel qui nous parlera de Jerry Goldsmith. À tout de suite.
We'll be right back.
Alors j'essaie de chercher comment je peux remettre tous les micros d'un coup avec tous les doigts là sur la console, mais il y a des trous entre les boutons, là ça marche pas.
Eh ouais. Il s'agissait de Desert Feelings de Magnetic Fox, une musique qui a été proposée à l'Ami Party dans la catégorie streaming music. C'est pour ça qu'on avait un fade à la fin, parce que c'est une musique moderne hein, qui a été faite sur macOS d'ailleurs. Et oui.
Et oui.
Comme quoi, hein. Même nous, on met de la modernité des
même
fois.
Même les
macounets. Et oui. Mais parlons musique et parlons de choses plus chroniques avec Med Bell qui nous parlera de son sujet. On t'écoute.
Alors, je vais vous parler de Jerry Goldsmith, malheureusement, qui est mort en 2004. Et oui, donc ça fait déjà 20 ans. Alors, on vous laissera, bien sûr, sur YouTube, il y a son propre site, donc un site officiel de Jerry Goldsmith. Il y a pour l'instant 160 vidéos. J'en ai vu 98, c'est déjà pas mal. Mais oui. c'est vraiment top. Alors, j'ai du mal à croire que ça fait 20 ans que le grand Jerry Goldsmith nous a quitté. Sa musique, encore aujourd'hui, il se passe rarement un jour sans que j'en écoute au moins une partie. Nous avons tous des raisons différentes d'aimer la musique du film. Pour certains, c'est un rappel musical d'un film bien aimé. Pour certains, c'est un endroit où l'on peut trouver de grands morceaux, de grandes mélodies. Pour d'autres, c'est pour la raison la plus évidente, la forme de musique la plus viscéralement visuelle, construite de manière à permettre à l'auditeur de se souvenir d'un film particulier, d'une manière particulière, ou mieux encore de créer sa propre interprétation de celle-ci. Il y a bien d'autres raisons à cela. Goldsmith, de manière unique, a tout à fait juste le mélange parfait du style européen pour encapsuler un film ou des moments clé d'un film avec une idée ou un thème avec le style hollywoodien, de créer un voyage musical d'un moment à un autre. Il s'est fait connaître lorsque des compositeurs comme Herman, Rosman, Bernstein et North avaient déjà commencé à transformer la musique du film de sa forme classique, romantique, séminale en quelque chose de différent. Ils ont pris leur idée et ils ont lancé dans la stratosphère en prenant l'idée et l'absence de musique peut-être aussi puissante que sa présence, absorbant les idées des maîtres classiques comme Bartok et Ravel, autant que ses héros de musique des films Waxman et Rosa, et son grand ami et idole North, en le mélangeant dans la technique la plus phénoménale. Il pouvait tout faire. Je ne pense pas qu'il y ait jamais eu d'autres compositeurs hollywoodiens qui eût passé aussi naturellement du drame sérieux aux sensations fortes ou en passant par la romance ou la comédie. Alors qu'en dehors du créneau de basse qui apprécie son ampleur, il est peut-être mieux connu pour sa musique de science-fiction ou d'autres films futuristes qui soient comme La Planète des Singes, Alien, les films Star Trek. Il n'est pas difficile de savoir pourquoi lui-même toujours a été le plus fier de sa musique, plus personnellement quiconque lui demandait quelle était sa chose préférée, qu'il avait écrite se faisait répondre que c'était Iceland in the Stream. Sa musique exquise et profondément personnelle pour l'adaptation d'Hemingway par Franklin Schaffner. Au cours des dernières années écoulées, de 1974 à 1983, il a réalisé la liste la plus extraordinaire des partitions de grande envergure, y compris Chinatown, qui a écrit un son de film assez noir, encore utilisé aujourd'hui. The Wine and the Lion, qui présente peut-être le morceau de musique de film le plus excitant jamais créé, comme Resolute Attack, The Omen, qui a créé un son de film d'horreur, qui est après même dans des thèmes d'Halloween. Donc, il est choral encore utilisé aujourd'hui. Capricorn One, notamment avec Final Fantasy, qui a servi de modèle dans la plupart des musiques d'action pendant une bonne vingtaine d'années. Star Trek The Motion Pictures, l'interprétation symphonique la plus éblouissante de la vision du futur de Roddenberry. Alien, obsédant, effrayant, beau. Poltergeist, le troisième film d'horreur que j'ai mentionné. Les partitions sont toutes exceptionnelles et toutes complètement, totalement différentes les unes des autres. The Final Conflict, la meilleure musique jamais écrite pour un mauvais film. First Blood, un autre chef-d'œuvre d'action, mais c'est la façon dont il a apporté à lui seul l'humanité un personnage qui n'aurait autrement pas fonctionné qui le distingue. Et l'absolument étonnant Under Fire, il n'y a jamais été une grande musique de film ethnique. Il n'y en a pas. Et entre autres, il y a littéralement des dizaines d'autres partitions qui, si elles n'avaient pas été créées par quelqu'un d'autre, seraient considérées comme des chefs-d'œuvre.
Alors, à noter aussi, il a travaillé aussi sur Star Trek First Contact,
ouais.
Avec son fils. Et il y a des thèmes, en fait, c'est exactement les mêmes que dans SG1, parce que son fils, il a bossé, il a fait les musiques de la série Star Trek SG1 aussi. Ah. Donc, en fait, il y a des trucs, on se dit, c'est SG1 ou c'est Star Trek, là ? Mais j'adore la musique.
The Final Conflict, comme la meilleure musique jamais écrite par un mauvais film, et bien que ce soit très, d'une certaine manière, qu'il se soit retrouvé à devoir cela si souvent. La façon dont Goldsmith pouvait élever littéralement n'importe quoi à un niveau différent était quelque chose qui ne peut être touché par personne d'autre. Il s'agit certainement d'une généralisation qui ne s'applique en aucun cas à tout le monde. Oui, en général, mais avec le plus grand compositeur de films, vous pouvez dire quand ils ont vraiment été inspirés par un film et sont passés au niveau supérieur. Mais Goldsmith, vous ne pourriez vraiment pas. The Final Conflict est un film absolument terrible et pourtant il a écrit pour lui l'une des musiques de films les plus grandioses et les plus épiques que quiconque n'ait jamais faite. En effet, oui, donc allez sur le site, écoutez, vous verrez que vous serez transporté. Plus tard, dans la décennie, il a accepté à contre-cœur de travailler avec Ridley Scott pour la deuxième fois. Avec sa partition pour Alien qui a été totalement, bien sûr, massacré au cinéma sur les jeunes et après avoir écrit l'une des partitions les plus ambitieuses, un mélange extraordinaire d'Electronic New Age. Ouais, c'est même un des seuls rares où il a utilisé des instruments assez complexes, de voix fantastiques, de romantisme classique du 19e siècle. Il l'a trouvé à abandonner pour la sortie américaine, en tout cas, et au profit de l'électronique simpliste de la Tangerine Dream, bien que je puisse projeté, j'ai toujours eu l'impression qu'il s'agit un peu changé en tant que compositeur après cela en donnant jamais moins qu'un film nécessaire. Mais peut-être tellement marqué par cette expérience qu'il a gardé les choses un peu plus rationalisées à partir de cela. Le changement, en fait, est une constante tout au long de sa carrière. Il a adopté des nouvelles technologies, de nouvelles façons de faire de la musique, des nouveaux sons qui sont disponibles pour s'asseoir à côté ou même des rares occasions pour les remplacer. Donc remplacer l'orchestre, quoi. Sa musique était aussi pertinente et vibrante dans les dernières années de sa carrière qu'elle avait été dans les premières années. Je sais ce que j'ai dit, mais il pouvait vraiment absolument tout faire. Le grand homme, une fois après qu'il ait donné une conférence au British Film Institute de Londres, il dirige le fameux London Symphony Orchestra dans d'innombrables concerts au fil des ans. Bien qu'il y ait des standards qui étaient présents le plus souvent dans les programmes, il est étonnant de voir combien de partitions différentes ont été représentées dans ses concerts au fil des ans. Selon mes calculs, quelque chose comme 75. Le fait qu'aucun d'entre eux n'est déplacé dans une salle de concert témoigne une fois de plus de sa qualité de manière si consistante. Quelquefois, nous avons eu droit à des conférences d'avant-concert avec Goldsmith. Oui, parce que c'est quelqu'un qui va dans le public, qui parle avec les gens. Hein, c'est très, très... Enfin,
très humain, quoi.
Ouais. Je n'oublierai jamais avec il a coïncidé avec l'écriture de sa musique avec un nouveau film, La Momie, qu'il a probablement immédiatement regretté d'avoir qualifié de merde. À l'époque, je ne sais pas ce que j'ai fait en travaillant le soir sur quelque chose comme ça. Puis, quelques semaines plus tard, nous avons tous eu l'occasion d'entendre les résultats de ce travail. Une partition remplie d'une énergie incroyable, d'action, de romance, de comédie, pas la moindre preuve qu'il amenait à aborder avec tout ce qu'il avait, quels que soient ses sentiments avec ses yeux. En fait, quand il a fait le film, il n'a pas vu, quand il a fait la musique, il n'a pas vu le film. On lui avait donné le script, ainsi de suite, alors il est parti de ça. Et après, il avait vu le film. Mmh. Il a dit, heureusement que j'avais ma musique.
Oh oui.
Il n'y avait qu'un seul Jerry Goldsmith. Je me souviens très bien, le jour de sa mort, il est bien connu qu'il était malade, en très mauvaise santé depuis un certain temps. Avant le moment, il a eu l'impression qu'il y avait quelque chose de nouveau à venir, parce que c'est ce qu'il fallait, encore et encore quelque chose de nouveau, inévitablement, au cours des 20 dernières années. La musique de film en général a changé de manière méconnaissable par rapport à ce que c'était à l'époque. Sans parler, avec une technique orchestrale aussi impressionnante que John Williams, il pouvait prendre des notes sur le manuscrit avec autant de créativité que Ennio Morricone. Il pouvait vraiment tout faire. Dans un temps libre, partie raisonnable de celui-ci, lui sera consacré à écouter la musique de Jerry Goldsmith, le porte-étendard de la musique de film hollywoodienne, le meilleur des meilleurs.
Et au-delà de la création d'un nouveau thème, Goldsmith a également créé de nouveaux types de paysages sonores dans Star Trek The Motion Picture grâce à l'utilisation intensive d'instruments inhabituels tels que le Blaster Beam à la demande de Roddenberry. Il a ensuite été adapté pour devenir le thème phare de Star Trek The Next Generation. D'ailleurs, amis auditeurs, merci Matt Bell pour m'avoir demandé de citer quelque chose de ce type, avec plaisir, et merci pour ton sujet. Et pour clore justement ce sujet, on a une musique toute spéciale, du coup, tu peux nous introduire un petit peu ce qu'on va écouter ?
Ah ben justement, c'est Star Trek en première partie et en deuxième partie, lorsque Picard parlait avec Woody Goldberg, Goldsmith a fait spécialement une musique de Star Trek spécialement faite pour le bar.
Allez, on écoute ça et après on se retrouve pour l'agenda.
Space, the final frontier. These are the voyages of the Starship Enterprise. Its continuing mission to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no one has gone before.
Thank you.
Energize.
C'était bien.
Hein. Energize, ouais. Mais justement, c'est justement à chaque fois, donc c'était la musique. Justement, tu parlais du Blaster Beam. Bah, dans le Blaster Beam, c'est qu'on entend le vaisseau. Oui. Pourquoi ? C'est quoi le Blaster Beam ? En fait, c'est une barre de métal et d'aluminium avec une dizaine de cordes et justement des aimants qui permettent de tordre les cordes. Et justement, quand, avec un bar de fer ou autre instrument, ça pouvait donner des effets assez fulgurants. D'où le Blaster Beam.
Bien. Cool. Eh bien, mes auditeurs, on passe à l'agenda.
Eh oui, qu'est-ce qu'on a ?
Eh bien, auditeurs de Radio Médica, nous vous rappelons que l'agenda est celui de la semaine passée lors des rediffusions le samedi. Et qu'est-ce que nous avons ceci ?
Une conférence à Lyon, capitale des super-héros, avec Michel Monteiller et Ciro Tota, dessinateur de bande dessinée et scénariste Lyon, capitale des super-héros. À première vue, cette affirmation paraît bien étrange. Pourtant, c'est grâce à des éditeurs lyonnais que des petits Français vont découvrir les super-héros américains de la firme Marvel comme Spider-Man et les 4 Fantastiques ou les Avengers, les éditions LUSG ou Lugdunum.
Lugdunum.
Lugdunum, désolé.
C'est le nom latin de Lyon.
Ok.
Ça va, on a lu Astérix et Obélix.
Ah, ouais,
pas forcément, hein. Fondé par le résistant Alban Vistel et par Maurice Navarro, s'installeront au 6 rue Émile Zola et seront le fer de lance de la et de l'arrivée des super-héros dans l'Hexagone aux côtés de d'autres maisons d'édition comme celle de Pierre Mouchot, lui aussi résistant, qui fonde les éditions Pierre Mouchot, devenue la société d'édition rodanienne. C'est ce foisonnant milieu de l'édition lyonnaise que Michel Monteiller et Ciro Tota ont choisi de vous faire découvrir. Vous apprendrez peut-être à cette occasion que Lyon a vu naître des super-héros français comme Photonique ou Micro. Wow. Donc c'est gratuit et même sans réservation. Ce sera le mardi 26 novembre de 18h30 à 20h aux archives municipales de Lyon, un place des archives à Lyon. Ah ben c'est à Confluence en fait.
Ouais, et l'édition Luc en fait c'est l'édition donc de tout ce qui est sorti au point de vue Marvel.
Bien.
Donc, tous les moi j'ai donc il y avait les journaux avant, il y avait Strange, Nova, Spider-Man, etc. etc.
Bien.
Et tout ça c'est de Luc.
Ok, Roudoudou, on t'écoute pour la suite.
Oui. Transformation de la création et de l'éducation aux images à l'ère de l'IA. Les rencontres Auvergne-Rhône-Alpes du pôle régional d'éducation aux images et aux nouveaux médias. La rencontre s'adresse aux professionnels, créateurs du champ du cinéma et de l'audiovisuel, de la photographie et des arts numériques, enseignants et formateurs, étudiants, médiateurs culturels, acteurs sociaux, élus et techniciens des collectivités. Elle est conçue en coopération avec la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, le CNC, sauf qui peut le court-métrage, l'UGA, ACNUM, les professionnels qui participent au comité de pilotage de la mission du pôle et contribuent à cette journée. C'est sur inscription le 27 novembre de 9h30 à 17h30 et c'est au Luxe Scène Nationale, 36 boulevard du Général de Gaulle à Valence.
Et peut-être qu'on pourra aller pour un sujet, qui sait.
C'est pas une mauvaise idée. Alors, nous avons donc du lien et des liens, Mému. Qu'est-ce que tu nous as trouvé ?
Alors, depuis mars dernier, on a le droit d'avoir accès aux normes du style AFNOR rendues obligatoires par la loi en Europe, puisque nul n'est censé ignorer la loi, mais encore faut-il pouvoir la lire. Et donc, un formulaire en ligne permet de demander la communication de celle dont on a besoin sur, voilà, sur le site de la Commission européenne. La conférence 2024 de l'appel à l'Association professionnelle européenne du logiciel libre avait rassemblé l'été dernier à Berlin des acteurs clés du logiciel libre et des décideurs politiques pour échanger sur l'avenir des politiques open source en Europe. Les discussions ont abordé notamment les thèmes de la souveraineté numérique, du renforcement de la collaboration entre les pays ou de l'adoption des politiques publiques favorisant le logiciel libre. Et bien, un compte-rendu détaillé de la conférence de 33 pages est à présent disponible.
Bien.
Quelqu'un s'est lancé dans la restauration des animations Flash à tout réseau, diffusé par, en 2024, ça fait déjà 20 ans.
En 2004, voilà. Diffusé en 2004.
Pardon, ouais, j'ai fait ça.
2024, c'était il y a 20 ans, je me sens très vieille.
Voilà, j'ai fait aller faire
un 2044.
Sieste, hein.
Voilà. On dirait qu'on est en 2004. Hein.
Ouais.
Mais là, c'est... en 2044 plutôt.
On peut faire un rollback, s'il vous plaît. Donc, diffusé en 2004 par France Télécom. Et donc voilà, il y a le premier épisode. Donc, c'est la télévision sur ADSL, technologie toute nouvelle à l'époque, hein, donc en 2004. Donc, si vous connaissez la télé sur IP maintenant, bah, en fait, vous connaissez peut-être la télé sur ATM et le codec vidéo MPEG-2. C'était le top de l'époque.
Ah oui, c'était magique.
MPEG-2, oh là là.
Et enfin, voilà.
Et enfin, la SNCF et les régions ne les mettent pas du tout en avant, mais certains passes régionaux permettent de voyager à plusieurs. C'est juste que c'est difficile à trouver sur l'horrible SNCF Connect. Les infos sont dispersées, tout ça. Et donc, quelqu'un a fait un article pour faire le job de la SNCF en synthétisant les offres existantes.
Ah, c'est bien ça.
Ça peut être intéressant pour éviter de dépenser trop de sous.
Eh bien, tout simplement, tous les liens sont disponibles sur notre blog underscore.radio.fm. Ouais. Alors, il me semble que nous sommes sur l'astrologique. Frottons cette boule. Allez.
6 admin, je suis le Mozart de la ligne de commande. Enfin, le Jean-Sébastien Bach. Oui,
d'accord. Ah ouais. Technophile, Scotty Beam Up.
Nerd, vous avez... Oula, je commence mal. Vous savez où finissent les postes supprimés automatiquement après un mois? Dans un cercle. Le cercle des poètes disparus.
Oulala.
Ah,
j'aime
beaucoup moins celle-là.
C'est bien joué, ça. Coder du False, on est passé au trou. Au trou ? Qui va en prison ?
Microsoft. Ah ben là, j'ai mouillé le vaillot.
Hein ? Ouais. J'ai pas compris.
Vaillot, c'était...
Oui, c'était vaillot, c'était Sony, voilà. Bien sûr.
Oh, t'as mouillé le maillot, mais t'as mouillé le vaillot.
Ah oui, oh là là, oui, pardon, excuse-moi.
Il est trop tard.
Ah putain.
On va aller faire la sieste.
Le générique de Yakapa ?
Oula, oula, la capa. Oula.
Ah oui, oula, électronicien. Oula, oula, la, la, la capa.
Oula, la, 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 la.
Ok.
La capa, elle a fait psst.
Ok.
Non, c'était une émission dans les années 80.
Ok.
Avec, je sais plus, c'était Pascal Bruckner. Je sais plus qui c'est qui animait, c'était un imitateur, je crois.
Dans les années 80, j'étais encore dans mes couches.
J'étais pas né, ouais.
Ah non, ben ouais, hein, on a les références qu'on peut.
Tout juste, voilà. Tout juste né.
Tout juste, hein. Oui, d'ailleurs, quand on avait...
En 2044.
C'est ça, en 2044, c'était il y a longtemps. Hein. Attends, 2044, 1980...
Non, Marty, tu ne raisonnes pas en quatre dimensions.
Ah oui, c'est vrai. Attends, voilà. 2044...
Tu veux vraiment savoir?
Ça fait des maths.
Tu veux vraiment savoir?
Ça fait 63 ans. Ça va, c'est pas si vieux. Ça va? Mais bon, d'ici là, on va terminer l'émission quand même. Hein.
Il peut en arriver des choses d'ici là, un astéroïde. Enfin,
ouais. Voilà, on ne sait jamais. Voilà. Eh bien, amis auditeurs.
En lisant Ricochet, t'as une météorite, tu vois ça.
Ah, ça, c'est pas faux. Eh bien, merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout de cette émission.
Oula, oui.
Ce numéro a été préparé par Mumu, Cécile, Medbel, Roudoudou, Flo, Laurie. Enfin, voilà, bref. On était dans les studios de Radio Méga. Eh bien, sur Underscore, vous pouvez nous écouter sur Radio Méga ou Cactus. Hein, retrouvez les liens sur notre podcast. Sur notre podcast.
Petit peu de casque. Et faire un grand mystère.
Ah, ça y est, il est à fond, là. Eh bien, sinon,
je suis réveillé, là, c'est bon.
Le lien, c'est underscore.radio.fm. Hein,
voilà.
Et on se retrouve la semaine prochaine à la même heure. Et cette fois, eh ben, je vous parlerai sûrement d'un sujet, mais je n'ai pas encore le sujet.
Nous vous parlerons d'un sujet.
Et voilà.
Surprise.
Non.
Surprise,
en fait.
Surprise avec Marcel Béliveau. Non, c'est encore une référence.
Félinera tête de tigre.
Voilà.
Quoi qu'il en soit, c'est un sujet à ne pas manquer.
Voilà.
Exactement. Voilà.
Et nous, on va pas le manquer.
Et alors.
On va pas te rater.
Viens, Gérard.
Gérard,
ah, cette fois-ci, bouge. on va pas te rater. Hein.
Non.
2h du mat sur un parking, ouais.
Donc là, on a débordé de 15 minutes sur l'émission qui suit.
Ouais.
C'est ça.
Ciao.
Non, on rend pas l'antenne là.
Ceci est une prise d'otage.
Mais non. Voilà. Allez, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Bye bye.
Ciao. Bye bye.